Et tout de suite, vous retrouvez Marion Cazeneuve pour le journal d'Haïti et des Amériques.
Merci, Anne Mignard. Il est 13h10 en temps universel. Au programme aujourd'hui, cette perquisition au palais présidentiel au Pérou. La police recherche la belle-sœur du président soupçonnée dans une enquête pour corruption et blanchiment d'argent. Pedro Castillo lui-même est visé dans 5 enquêtes. Dans la revue de presse, cette interrogation du Miami Herald sur le traitement des réfugiés haïtiens. Ceux qui réussissent à accoster sont autorisés à entrer sur le territoire américain et ceux qui sont interceptés encore dans le bateau qui les transporte sont expulsés. Aux États-Unis, le couple Clarence et Virginia Thomas, deux conservateurs qui font régulièrement la une des journaux. Et puis, dans le journal de l'Outre-mer, Benoît Ferrand, vous nous parlerez de cette nouvelle maladie détectée en Guyane, transmise par les tiques.
Une maladie appelée anaplasmose de Starwin. Elle a été récemment identifiée par des chercheurs du CNRS.
Et on vous retrouve, Benoît, dans une quinzaine de minutes.
RFI, la radio del mundo.
Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
Revenons donc sur cette perquisition au palais présidentiel au Pérou. C'est à la une de votre revue de presse.
Oui, la belle-sœur de Pedro Castillo, le président péruvien, se cachait dans le palais présidentiel et maintenant elle est en fuite. C'est le titre en une d'El Comercio. Selon le procureur cité par le journal, Yennifer Paredes ferait partie d'un groupe criminel dans lequel elle aurait eu un rôle d'intermédiaire. Un groupe criminel qui mettrait en place des appels d'offres illégaux. La police est restée une heure dans le palais sans la trouver, mais de sources policières, elle s'y était rendue la veille, souligne El Comercio. La Repubblica affirme que, selon l'équipe spéciale contre la corruption du bureau du procureur, Pedro Castillo en personne dirigerait une organisation criminelle à laquelle participerait entre autres la première dame et donc sa sœur.
Pedro Castillo qui a réagi lors d'une allocution à la télévision.
Palacio de Gobierno.
Le palais du gouvernement et le palais présidentiel ont été violés une fois de plus lors d'une perquisition illégale autorisée par un juge. Et cela au moment même où l'on demande ma déchéance pour 5 ans, ce qui priverait le peuple péruvien de son gouvernement légitime.
Voilà les mots du président péruvien. Un message repris dans la presse, Christophe.
Le président Pedro Castillo ne répond pas aux accusations qui le visent et affirme que tout cela fait partie d'un plan contre lui, peut-on lire sur le site Radio Programas del Perú. Perú 21 note que si la police n'a pas mis la main sur Yennifer Paredes, elle a arrêté hier dans la même affaire le maire de Anguilla, José Nenil Medina Guerrero, ainsi que, complète El Comercio, un entrepreneur et sa sœur pour participation présumée à une bande criminelle et blanchiment d'argent. Perú 21 publie un sondage selon lequel 72% des Péruviens désapprouvent la politique de lutte contre la corruption du président.
Au Venezuela, à présent, le président Nicolas Maduro veut rétablir les relations militaires avec la Colombie.
Le président a ordonné au ministre de la Défense de rentrer en contact avec son homologue colombien, titre Ultimas Noticias. Rappelons, écrit Semana, que le président n'avait pu assister à la cérémonie de prise de pouvoir de Gustavo Petro dimanche dernier parce que l'ex-président Iván Duque, avec qui Nicolas Maduro a eu un important conflit diplomatique, l'a empêché de venir en Colombie. Mais le président vénézuélien a parlé avec Gustavo Petro dès l'annonce de sa victoire à la présidentielle. Selon le président colombien cité par El Nacional, il y a déjà des rapprochements pour une normalisation des relations. Même s'il dément les rumeurs d'une possible rencontre avec Nicolas Maduro, nous avons encore beaucoup de chemin à faire.
En tout cas, selon Gustavo Petro, cette fois est cité par la Patilla, en 2 mois, la frontière avec le Venezuela pourrait être totalement rouverte.
Une frontière au centre d'un possible rétablissement des relations militaires qui pourrait se traduire, selon Semana, par l'appui militaire que les deux nations doivent fournir sur les plus de 2100 km de frontière où règnent le narcotrafic, les groupes criminels, l'ELN, les dissidences des FARC. Du côté de la presse colombienne, El Espectador, dans un éditorial, prévient « Attention, c'est une chose de rétablir des relations, c'en est une autre très différente de donner son aval à un régime qui continue de violer à sa guise les droits humains et emprisonne la démocratie du pays voisin. »
Plus d'une centaine de migrants haïtiens ont été arrêtés au large de la Floride.
Information donnée par Alter Press, ça s'est passé ce lundi, 2 jours après l'interception par les gardes-côtes américains de plus de 300 haïtiens toujours au large de la Floride. Ce mercredi, Réseau Nord-Ouest résume un article du Miami Herald intitulé « Pourquoi certains réfugiés haïtiens sont autorisés à entrer aux États-Unis et d'autres déportés ?» déportés. Ces cinq derniers mois, explique le journal, dans quatre cas au moins, les migrants haïtiens qui ont plongé pour atteindre la plage, abandonnant des bateaux délabrés et surchargés, ont été récupérés par des agents fédéraux pour que leur cas soit traité, alors que ceux qui sont restés à bord ont été remis aux gardes-côtes américains pour un rapatriement. Une politique du pied sec, pied mouillé, sujet d'inquiétude depuis 30 ans, explique le directeur d'une association dirigée par l'archidiocèse de Miami. Les gens qui sautent dans l'eau pour éviter d'être refoulés parce qu'ils ont été capturés, c'est très dangereux et ça l'a toujours été.
On termine votre revue de presse dans un instant. Christophe, juste avant, je vous propose cette plongée au sein de l'histoire d'un couple polémique aux États-Unis, celui de Clarence et Virginia Thomas, polémique parce que ce juge de la Cour suprême est souvent pointé du doigt pour les propos de son épouse Virginia, surnommée Ginny. Elle affiche clairement ses positions pro-Trump et sa conviction que l'élection présidentielle de 2020 a été volée. Ses propos publics constituent un potentiel conflit d'intérêts puisque son mari est tenu à une certaine neutralité. Mais ce conservateur afro-américain reste toutefois très respecté. Il est le plus ancien des 9 juges de la Cour. Annelle Larue nous dresse le portrait de ce couple qui tente peu à peu d'infuser ses idées conservatrices au risque d'outrepasser le cadre légal.
1991, Clarence Thomas devient juge à la Cour suprême des États-Unis. Une photo le montre concentré, le regard fixe, le visage fermé. Derrière lui, sa femme, Virginia Thomas, elle regarde attentivement son mari. Tous deux forment un des couples les plus connus de la sphère politique conservatrice. Ils se rencontrent en 1986 et se marient un an plus tard. Issus de milieux très différents, ce qui les lie en premier lieu, selon Sébastien Natrolle, spécialiste de la Cour suprême des États-Unis, c'est la foi.
Le juge Clarence Thomas, lui, est né en Géorgie et il a grandi. Et son épouse Virginia, elle est née dans le Nebraska. Donc il faut savoir que le Clarence Thomas, il a été élevé par son grand-père et dans la foi catholique. À la base, il ne se destinait pas à des études de droit, il souhaitait devenir prêtre. Et il a fini par bifurquer. Il a constaté que l'église catholique ne luttait pas suffisamment contre le racisme. Et donc il a décidé de faire des études de droit, ce qui l'a amené jusqu'à la prestigieuse université Yale. Et Virginia Thomas, elle également a grandi dans la foi, alors protestante hein, pour elle. Elle est devenue catholique ensuite au contact de Clarence Thomas. Et elle a fait la Creighton University. Donc c'est une université privée jésuite. Donc les deux époux ont toujours eu la foi dès leur plus tendre enfance, si je puis dire. La seule différence vraiment entre Clarence Thomas et Virginia Thomas, c'est que Clarence Thomas a grandi dans un milieu plutôt pauvre, alors que Virginia Thomas, elle est fille d'un ingénieur qui était patron de sa propre entreprise.
Le couple se retrouve dans des valeurs conservatrices communes, contre le droit à l'avortement, contre le contrôle des armes, contre l'immigration. Ils partagent une seule et même vision de l'Amérique.
Clarence et Virginia Thomas voient la société américaine comme une société qui devrait sauvegarder un ordre conservateur avec des valeurs morales chrétiennes. Et alors, une petite particularité, c'est que ces valeurs morales chrétiennes appelées de leur vœu conjuguent pour l'un comme pour l'autre à une liberté économique la plus large possible. Donc c'est ce qui explique leur tendance à favoriser un état minimal quand on a des strictes fonctions régaliennes.
Selon le couple, chaque individu doit être maître de son propre destin. Le juge Clarence Thomas tient cette conviction de son parcours. Un homme noir élevé dans la pauvreté et pourtant au parcours brillant, lui-même victime de racisme, il défend le droit des Noirs américains et s'est opposé à l'apartheid en Afrique du Sud. Mais selon lui, la lutte contre le racisme serait plus efficace si les Noirs avaient la valeur du travail et essayaient de s'élever par le mérite et l'entrepreneuriat. Une pensée empruntée de ses lectures, notamment celle de l'économiste Thomas Sowell, qui a marqué un tournant dans la vie du juge.
Clarence Thomas, lui, à l'origine, il faut savoir qu'il penchait plutôt à gauche durant sa jeunesse. Et selon ses propres dires, il a commencé à s'intéresser à la pensée conservatrice à la suite des émeutes qui ont eu lieu à Harvard en 1970, en pleine période de contestation de la guerre au Vietnam. Clarence Thomas a fini par découvrir un auteur qui s'appelle Thomas Sowell. Donc, c'est un économiste noir, comme lui, et à la fois ultra-conservateur et libertarien. Et également, il a commencé à parcourir les œuvres de Ayn Rand, donc figure majeure de l'anticommunisme, mais elle aussi promotrice d'un laisser-faire quasi absolu dans la sphère économique. C'est ce qui explique cette bifurcation de Clarence Thomas, qui à l'origine était plutôt en faveur de l'antiracisme, plutôt une tendance de gauche, si je puis dire, et il a bifurqué vers un conservatisme de plus en plus affirmé.
Alors que son mari a longtemps été connu pour son silence imperturbable, Ginny Thomas brille par ses récents scandales. Républicaine de longue date, avocate de formation, elle fait carrière dans des cabinets de lobbyisme politique, ce qui lui permet de graviter autour du pouvoir exécutif et judiciaire, notamment la Cour suprême. En novembre 2020, Joe Biden est élu président. Convaincu que la victoire a été volée à Donald Trump, Ginny Thomas, en relation avec d'anciens assistants juridiques de son mari, œuvre pour renverser le résultat. Elle va même jusqu'à entrer en contact directement avec le chef de cabinet de Trump, Mark Meadows. Point culminant, le 6 janvier 2021, jour de l'assaut du Capitole, elle publie sur son Facebook « I love make America great again, people », encourageant les pro-Trump à se réunir devant le Capitole. La justice se saisit de l'affaire. Le juge Thomas devrait légalement se récuser sur ce dossier, mais il refuse de le faire. Les suspicions de conflit d'intérêts sont pourtant bien présentes, mais très difficiles à prouver, selon Artemus Ward, politologue à l'université de Northern Illinois.
Le conflit d'intérêts serait le suivant. Le juge Thomas statue sur des affaires concernant Donald Trump et sur les élections de 2020. Dans certains cas même, il statue en faveur de Trump à propos de ces élections. La question est-ce un conflit d'intérêts si sa femme milite en faveur de Donald Trump dans ces élections? C'est ce que le Congrès essaye de savoir, mais c'est très difficile à prouver. À quel point le juge parle à sa femme? À quel point communique-t-il sur leur travail respectif? Ça, on n'en sait rien. Y a-t-il une trace écrite ou des mails, des documents? Sûrement pas. Comment peut-on savoir? Eh bien, il faudrait les faire témoigner sous serment. Il faudrait leur poser des questions. Ils peuvent dire devant le Congrès ou le département de la justice qu'ils n'ont pas communiqué, qu'ils ne se sont pas coordonnés. Mais si après, des preuves refont surface et montrent l'inverse, alors là, ils auront menti sous serment et seront coupables de parjure.
Ce potentiel conflit d'intérêts pourrait, en théorie, mener le Congrès à lancer une procédure de destitution, ce qui n'est pour le moment pas envisagé. En attendant, l'image que renvoie la Cour suprême aux Américains se dégrade. Pour preuve, de nombreux étudiants de l'université George Washington ont signé une pétition demandant le renvoi du juge Thomas qui intervient dans cet établissement. John est l'initiateur de cette pétition.
Le jour après la révocation de l'arrêt Roe versus Wade, un de mes amis a publié sur les réseaux sociaux que Clarence Thomas travaillait pour l'université. J'ai tout de suite créé une pétition parce que j'étais tellement en colère que notre école continue de l'employer. Ajoutez à cela son rôle dans l'insurrection du 6 janvier. En tant qu'étudiant, on nous apprend que la Cour suprême est un organisme de contrôle de l'action du Congrès et du président. Enfin, je veux dire de l'exécutif. En ce moment, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne remplit pas cette fonction.
Les étudiants ont obtenu gain de cause. Clarence Thomas ne donnera plus de cours à l'université George Washington. L'administration n'admet pas que la pétition a pesé dans cette décision, même si John en est convaincu. Pour son amie Victoria, ce renvoi est un soulagement.
C'est le minimum que l'université puisse faire en signe de solidarité envers ses étudiants. En prenant cette décision de renvoyer le juge Clarence Thomas, l'établissement a l'opportunité de montrer son soutien aux étudiants et à leurs droits humains les plus fondamentaux qui ont été violés encore et encore ces dernières semaines.
La pression médiatique exercée sur le couple Clarence et Ginny Thomas poussera-t-elle le juge à quitter de lui-même son siège à la Cour suprême? Cela ne semble pas faire partie des plans du juge, déjà prêt à revenir sur certains autres droits, comme celui du droit à la contraception ou du mariage pour tous.
Dossier signé Annaëlle Larue. Restons aux États-Unis pour terminer cette revue de presse avec bientôt le départ de la reine, de l'impératrice, peu importe le titre, elle les a tous remportés de toute façon. Petit indice.
Ladies and gentlemen, your 2012 US Open Women's Singles Champion, the great Serena Williams.
Là, par exemple, c'était pour sa victoire lors de l'US Open en 2012. La championne de tennis américaine, Serena Williams, s'apprête donc à quitter les courts après 25 ans de carrière, 23 titres de Grand Chelem. C'est plus, un de plus que Rafael Nadal, par exemple. Ses cris rageurs, vous les avez entendus, ne résonneront plus sur les courts du monde entier, peut-être même dès septembre, après l'US Open qui a lieu à la fin du mois à New York. Lubna Anaki, les New Yorkais sont unanimes, la Queen va leur manquer.
Sur les courts de tennis new-yorkais, les fans de Serena Williams sont très nombreux.
C'était génial de la regarder jouer toutes ces années. Je l'admire beaucoup. J'aime sa force, son assurance. C'est une championne.
Elle réunit deux aspects, des qualités de jeu exceptionnelles et une histoire humaine très touchante.
Certains ici ont eu la chance de voir jouer Serena Williams en vrai. Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de Flushing Meadows où se tient l'US Open, là où la joueuse de tennis a remporté 6 de ses titres, là où elle jouera peut-être ses derniers matchs dans quelques semaines.
C'est une grande perte pour les fans de tennis qui ne pourront plus la voir jouer sur les courts.
C'est triste parce qu'elle est l'une des meilleures de tous les temps, mais je suis heureux pour elle parce qu'elle va pouvoir faire autre chose de sa vie, en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur.
Pour ses amoureux du tennis, Serena Williams restera une légende.
Elle a révolutionné le sport et on va attendre longtemps avant d'avoir quelqu'un comme elle. Elle et sa sœur sont des pionnières et ont réussi leur carrière.
Pour le moment, l'athlète américaine n'a pas annoncé de date exacte pour son départ à la retraite. Lubna Anaki, New York, RFI.
Si tu deviens une joueuse de tennis, à qui voudrais-tu ressembler ? Demande une journaliste à une Serena Williams de 11 ans. Eh bien, j'aimerais que les autres veuillent me ressembler, répond l'intéressé, son souhait en tout cas s'est réalisé. Et bien plus, Christophe Paget, la presse américaine revient aussi bien sûr sur la retraite de Serena Williams.
Oui, d'autant que c'est dans le journal Vogue qu'elle avait annoncé hier que le compte à rebours était enclenché concernant sa retraite à son apogée, et elle en a connu plusieurs, note le New York Times. L'ancienne numéro 1 mondiale, aujourd'hui âgée de 40 ans, a été une des figures les plus dominantes dans le monde du sport. Capable de déborder et d'intimider ses adversaires avec des coups à pleine puissance et des hurlements à pleine gorge, souvent sortis au moment approprié pour un maximum d'effet. Du coup, analyse le Boston Globe, ses adversaires ont utilisé la critique et le rejet comme des armes, refusant de reconnaître ses exceptionnels talents techniques, seulement ses prouesses physiques.
Merci Christophe Paget, c'était la revue de presse des Amériques.
Le journal de l'Outre-mer.
On vous retrouve Benoît Ferrand à la une de ce journal, cette nouvelle maladie transmise par les tiques détectée en Guyane.
Une maladie appelée anaplasmose de Starwin. Elle a été identifiée par des chercheurs du CNRS suite à l'infection d'un orpailleur, d'un chercheur d'or. Un cas détecté, pour l'instant, unique en son genre. Odan Agiali.
Souffrant de fortes fièvres et d'une anémie sévère, le patient avait été admis au centre hospitalier de Cayenne en 2021. C'est seulement après sa sortie d'hôpital que la maladie a pu être identifiée suite à une batterie de tests et un examen ADN. Une maladie infectieuse rare transmise de la tique à l'homme au cœur de la forêt amazonienne. Olivier Duron est directeur de recherche au CNRS.
On l'a appelé l'anaplasmose de Starwin. Pourquoi ? Parce que cet orpailleur vivait le long de la crique Starwin, entre Saint-Laurent-du-Maroni et Apatou. Cette personne, si elle n'avait pas eu son mode de vie, si elle avait été citadine, etc., elle ne se serait pas retrouvée exposée à des tiques. C'est-à-dire que la tique, en fait, si elle peut transmettre la maladie à l'humain, c'est parce qu'elle s'est nourrie auparavant sur un animal de la faune sauvage. Alors pour l'instant, on n'a pas encore identifié l'animal réservoir. On soupçonne que ce sont des animaux qui pourraient être des paresseux ou des coatis. On va mettre en place des tests vraiment diagnostiques pour savoir si d'autres cas sont présents en Guyane. Donc c'est tout à fait possible qu'en fait ces bactéries soient très très largement répandues en Amérique du Sud et soient passées complètement sous les radars puisqu'il n'existe pas de tests diagnostiques pour les identifier.
L'expansion des activités humaines au cœur de l'Amazonie devrait en tout cas favoriser l'émergence de maladies infectieuses similaires, insiste le chercheur.
Direction la Martinique maintenant avec une actualité plus souriante, le grand retour d'une activité touristique fonctionnant à plein régime, ou presque. Christine Cupit.
Location saisonnière, gîte, village vacances ou encore hôtel, la demande reste forte et les établissements hôteliers s'en félicitent. Odile Delors, directrice commerciale Antilles du groupe Pierre et Vacances.
Les chiffres sont très encourageants parce que nous avons eu des vacances avec un taux d'occupation très honorable, un retour effectivement de la clientèle aussi bien extérieure que de la clientèle locale. Nous sommes assez contents depuis le mois de juin d'ailleurs, un mois de juin très encourageant aussi, avec de très bon taux d'occupation. Et sur les mois de juillet et août, nous sommes complets ou quasi complets.
Pour ces grandes vacances, les hôtels affichent des taux de remplissage proches de 100%. Mais selon certains professionnels, les habitudes des clients sont en train de changer. Beaucoup préfèrent séjourner à l'hôtel pour une durée limitée et opter pour d'autres types d'hébergements pendant le reste de leurs vacances en Martinique.
Bon après-midi, Marion, à demain.
Merci Benoît Ferrand, on vous retrouve demain donc, et nous aussi on se quitte, c'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à Hélène Avril qui m'a aidé à préparer cette émission, et il est maintenant 15h, bientôt 15h30 à Paris. Vous pouvez nous retrouver aussi bien sûr sur internet, sur le site RFI.fr, rubrique Amérique, et sur Twitter @RFI Amérique au pluriel. Bonne journée à tous sur RFI.